Bonsoir à tous. Bizet, Verdi et la Marseillaise sur le parvis du Palais Garnier. Nouvelle mobilisation cet après-midi, mobilisation symbolique de l'Opéra de Paris. Une mobilisation contre la réforme des retraites sans violence, positive, alors que le conflit s'enlise et que les actions de certains grévistes se radicalisent. L'UNSA RATP siffle la fin de la partie, temporairement. Dès lundi, le trafic reviendra quasiment à la normale dans les transports parisiens, métro et RER. Une pause, explique le syndicat, pour revenir plus fort dans les semaines à venir, vous l'entendrez. Et puis reportage aux Philippines en fin de journal. Les autorités se veulent rassurantes malgré l'entrée en éruption ce week-end du volcan Taal. C'est certainement l'une des actions contre la réforme des retraites les plus fortes. Les spectacles organisés par les salariés de l'Opéra de Paris en grève depuis le 5 décembre. Les images des danseuses de ballet interprétant un extrait du lac des Cygnes sur le parvis du Palais Garnier avaient fait le tour du monde. C'était en décembre dernier. Cet après-midi, au même endroit, c'était au tour de l'orchestre de l'Opéra de Paris, entouré de danseurs, de choristes, de mécanos et des salariés de la Comédie Française, d'entonner des grands airs, Carmen de Bizet ou encore la Marseillaise Tom Al-Arabi.
Oui, l'Opéra Garnier a fait scène nette, mais place comble cet après-midi. Avocats et enseignants se mêlent au badaud et c'est la foule qui pousse la voix en premier pour accueillir les pensionnaires de l'Opéra. Puis tous les métiers de l'Opéra et de la Comédie Française défilent sur scène, machinaux, électro, chanteurs, danseurs, costumiers et même le chef d'orchestre accueilli en quasi rockstar.
Ah, c'est superbe. Moi, ça fait 30 ans que je suis à l'Opéra de Paris. Et les anciens qui sont battus pour des choses aussi importantes, je pense qu'ils doivent être contents de voir ce qu'on fait, nous les mômes, techniciens qui sont à l'opéra. Ils doivent être contents qu'on lâche pas le morceau et qu'on se battra jusqu'au bout.
On a entendu Patrick Machinot à l'Opéra Garnier. Thierry, lui, est électro à la Comédie Française. Et pour lui, ce concert, c'est le symbole d'une révolte.
Ah, c'est superbe. Moi, ça fait 30 ans que je suis à l'Opéra de Paris. Et les anciens qui sont battus pour des choses aussi importantes, je pense qu'ils doivent être contents de voir ce qu'on fait, nous les mômes, techniciens qui sont à l'Opéra. Ils doivent être contents qu'on lâche pas le morceau et qu'on se battra jusqu'au bout.
Arnaud descend de scène, sourire aux lèvres, son violon sur l'épaule.
Pacifique pour l'instant, mais c'est une révolte. Les gens ne sont pas dupes. Vous voyez bien comment ça se danse. Mais on n'est pas des gens qui savent jouer avec les mots comme eux. On est des ouvriers, on est des gens, entre guillemets, normaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des médias qui vont dans tous les sens. Internet partout, il y a de la culture dans tous les sens. Tout le monde est informé. C'est fini le temps des gueux. La monarchie, c'est fini.
Une Marseillaise et on se quitte jusqu'à la prochaine fois. Et même si l'on en croit les slogans, Adrien, jusqu'au retrait.
Du côté des négociations entre grévistes et l'État, toujours aucun compromis en vue. Une grève historique pour l'Opéra de Paris avec pour l'instant 67 spectacles annulés et des pertes évaluées à 14 millions d'euros. Pendant ce temps, ils étaient quelques milliers en jaune dans les rues de Paris, partis ce matin de la porte de Champéret à l'ouest en direction de la gare de Lyon dans le sud-est. Slogan anti-Macron, anti-policier ou anti-réforme des retraites, 15 interpellations suite à des heures avec les forces de l'ordre. Et puis à noter quelques milliers de gilets jaunes à Toulouse également et un petit peu moins, environ un millier, dans les rues de Rouen. Il y aura, à n'en pas douter, du changement lundi dans les transports parisiens. L'UNSA RATP, le premier syndicat dans la régie, annonce une suspension de la grève à partir de lundi, ce qui signifie la reprise d'un trafic normal ou quasi sur une majorité des lignes du métro parisien et sur le RER A. Seules les lignes 5 et 13 et le RER B ont décidé indépendamment des autres de continuer le mouvement. Pour Bastien Berthier, porte-parole du syndicat au sein de la RATP, les grévistes ont besoin d'une pause pour mieux relancer le mouvement. On l'écoute.
Les AG comme les lignes 5 et les lignes 13 continuent déjà le mouvement et les AG ont d'ores et déjà voté une journée d'action le 24 janvier. Les collègues, en fait, au bout de 45 jours de grève, ça commence à être dur financièrement. Vous avez pu voir que le gouvernement a juste fait pourrir le mouvement. Donc, on est un peu obligé de souffler financièrement et on continuera le mouvement. À l'heure d'aujourd'hui, mes collègues ont dû perdre environ 3000 euros en 41 jours. Entre 2000 et 3000 euros selon les métiers. Il n'y a aucune caisse de grève qui va permettre de rembourser à des milliers d'agents entre 2000 et 3000 euros. C'est impossible. Et le mouvement, on le continue. Et dès le 24 janvier, vous verrez que le mouvement n'est pas terminé. Nous, on va tout faire pour que le mouvement survive. On cherche un second souffle. Et dès le 24 janvier, ce sera le second souffle.
Un second souffle, des alternatives à la grève, on en a régulièrement des aperçus. Maintenant, à mesure que le conflit social s'enlise, perturbation des épreuves anticipées du bac ce matin dans un lycée de Clermont-Ferrand à l'appel de plusieurs syndicats, examen reporté à une date ultérieure, ou encore tentative ratée d'intrusion par des manifestants au Bouffe du Nord à Paris hier soir où se trouvait Emmanuel Macron. Un journaliste du site Là-bas si j'y suis se trouve encore en garde à vue ce soir, soupçonné de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences à cause d'un de ses tweets qui annonçait que quelque chose se préparait contre le président. En Allemagne, les manifestations se succèdent sur le front environnemental. Agriculteurs et écologistes ont défilé tour à tour depuis hier dans les rues de Berlin. Signe des tensions entre un monde paysan en crise et une opinion publique allemande toujours plus sensible aux questions environnementales. C'est un reportage de Nathalie Versieux.
Une union des Verts et des conservateurs il y a 40 ans, lorsqu'est né le Parti Vert, c'était inconcevable. Les baskets blanches de Joschka Fischer au Parlement régional de Hesse étaient une provocation pour les conservateurs autour de Helmut Kohl. Les Verts faisaient alors figure d'épouvantail. Les choses ont bien changé. Ulrike, 48 ans, pense qu'une telle coalition serait désormais possible en Allemagne.
Oui, c'est envisageable. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas, mais il est sans doute temps qu'on travaille sans se figer dans la logique des partis pour régler un certain nombre de problèmes comme l'environnement.
Le scénario possible, la CDU est créditée de 26 à 28% d'intention de vote, les Verts de 21 à 23%, mais l'opération serait risquée pour les Verts, de l'avis de Daniel.
Ce qui pourrait se passer à ce moment-là à la longue, c'est que les Verts, que ce soit plutôt les Verts qui s'adaptent à la CDU que l'inverse. Ça a été le même cas avec la SPD, avec les socialistes. Et depuis, les socialistes sont en chute libre, presque, en Allemagne, malheureusement.
En Allemagne, les prochaines élections auront lieu l'année prochaine.
Nathalie Versieux, que va devenir Gibraltar une fois le Brexit finalisé? Le chef du gouvernement de cette petite enclave britannique située au sud de l'Espagne laisse entendre que le territoire pourrait rejoindre l'espace Schengen. Il s'agirait de garantir la liberté de mouvement sur cette frontière stratégique quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union. Ne pas rendre accessible la péninsule aux Européens aurait-il un sens, s'interroge le ministre. 30 000 citoyens britanniques y vivent et environ 14 000 Européens, majoritairement espagnols, y travaillent. En Libye, pas de trêve dans le conflit qui oppose le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, et son ennemi de l'Est, le maréchal Haftar. Des forces loyales à ce dernier bloquent depuis ce matin les principaux terminaux pétroliers situés dans l'Est du pays. Une véritable attaque au portefeuille de l'État libyen, puisque le pétrole est le poumon de son économie. C'est dans ce contexte toujours tendu que s'ouvrira demain un sommet international à Berlin, sous l'égide de l'ONU, qui doit relancer normalement le processus de paix. Aux Philippines, les autorités se veulent rassurantes malgré l'entrée en éruption ce week-end du volcan Taal sur l'île de Luçon, à une soixantaine de kilomètres de la capitale Manille. Le gouvernement a ordonné aux 4000 habitants d'évacuer à Tanauan ainsi qu'à Tagaytay. Les habitants sont tout de même un peu désabusés, Marianne Dardad.
Dans ce centre d'évacuation, logé dans une école primaire, les volontaires organisent la distribution de vivres et de vêtements avec des stocks prévus pour 2 semaines. Joël Somagno, parent d'élève, est venu prêter main forte.
Il est 17h, mais nous servons seulement maintenant le déjeuner car nous avons du mal à trouver des bénévoles pour cuisiner. Nous avons ici 1000 personnes et nous ne savons pas combien de temps elles devront rester ici. C'est notre problème.
Jusqu'ici, les résidents avaient la possibilité de retourner chez eux afin de récupérer leurs effets personnels. Désormais, les quartiers sont verrouillés par les forces de l'ordre alors que les émissions de fumée du volcan Taal ont baissé en intensité. Pour Edward Landayan, responsable local du bureau en charge des désastres naturels, le volcan reste dangereux.
Selon l'Institut géologique, c'est une zone de 20 km autour du volcan qui serait touchée.
A l'inverse, Tagaytay est la seule ville située à l'intérieur du périmètre de sécurité à ne pas avoir ordonné d'évacuation. Tagaytay est une destination d'ordinaire prisée des touristes, précisément pour sa vue imprenable sur le volcan. Encore couverte de cendres volcaniques par endroits, cette semaine, les rues de Tagaytay sont restées désertées par les touristes.
L'hôtel est vide. On vient à Tagaytay essentiellement pour la vue sur le volcan. C'est triste. Sans les touristes, nous sommes une ville fantôme.
Alors que le manque à gagner de cette semaine en pleine saison touristique commence à se faire sentir, la ville de Tagaytay vient d'autoriser la réouverture des hôtels. Le niveau d'alerte 4 sur 5, synonyme d'éruption dangereuse imminente, reste maintenu.
Demain, un beau dimanche ensoleillé quasiment partout en France. Quelques nuages gris en Auvergne-Rhône-Alpes le matin. De la pluie uniquement sur le nord, mais qui va descendre jusqu'au Val-de-Loire au fil de la journée. Quelques gouttes également à prévoir en Corse. Côté température, ce sera un peu frais au réveil. 3 degrés en moyenne avec du zéro en Haute-Marne. Et puis ça va monter l'après-midi. Il fera entre 5 et 8 dans la moitié nord et entre 6 et 13 dans le sud.